Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les clichés ont la vie dure. Et alors, s'ils ne sont pas malveillants, s'ils font rêver, pourquoi ne pas rêver, par exemple, à Naples, à un séjour merveilleux à Naples grâce à des lieux communs, vous savez, la foule, le bruit, le linge pendu aux fenêtres, etc. L'essentiel ensuite est bien de quitter ces clichés. Pour Surpris par la nuit, Anne-Sophie Vergne s'est intéressée à Naples, Naples par fragments. Et l'ouverture de cette série de 5 émissions se fait à une voix.
Surpris par la nuit.
Fragment napolitain.
Torni lei a namorarmi, mi creda fra curiosi,
4. Gregil, che programma è?
È la telenovela.
E che telenovela? Come?
100 vetrine.
E chi so?
È una telenovela.
Tutti i giorni? Ti avviene tutti i giorni? Non lo saccio però.
Ah, vedi che tutti i giorni vedo vivere Beautiful e 100 vetrine.
Pure Beautiful. Ancora si fa. A quant'anni stai accanto, Nè? Vivi nel quartiere?
40 anni.
40 anni? Al bar.
A gennaio fanno 40 anni.
Ma sei nata...
Qua sono dal 90, la porta volata là.
Lo so, ma vivi, sei del quartiere, sei dei quartieri spagnoli, sì?
Sì.
Gennaro!
Gennaro! Gennaro! Vai, a lei,
vedo
pagliaccio. Un caffè? Un euro poi? Oh no, grazie.
Naples, chaos et beauté. Entre ces deux mots se mesure bien l'écart des imaginaires de Naples, imaginaires au pluriel. Chacun, avant d'y aller, a déjà composé sa mythologie, a composé sa Naples rêvée avec des fragments de livres, d'anecdotes, de cartes postales et de chansons populaires. Naples existe donc d'abord dans le petit royaume des représentations collectives. On accède à Naples par les clichés, le détour inévitable des initiations mineures et touristiques. Mais la rencontre effective avec la ville réduit vite cette petite mythologie par la puissance des forces qui la traversent. Force de son peuple, force de son histoire, force de son irréel aussi. Car la réalité ne triomphe jamais définitivement du rêve à Naples. Le mot « réalité » sonne même ici de façon incongrue. Tant un invisible dense, épais, matériel, enchante de signes indéchiffrables, les murs lépreux des palais, les ruelles obscures où se nichent comme des colombes dans les fractures de pierre noire, les madones et l'image des saintes napolitaines aux mains pleines de feu, chantées par Nerval. Comme par surprise, des fragments de poèmes, de musiques et d'histoires ressurgissent alors un à un, mais colorés par l'expérience physique de la ville. Des fragments qui recomposent des paysages, au pluriel, et des mythes, au pluriel, de Naples. Fragments de lave et de feu, le volcan. Le dieu Vésuve domine la ville et semble régir les humeurs de la terre et du peuple. Quartiers espagnols, Sanità, Spacanapoli, Pigna Seca. Une plèbe en mouvement, tout en gueule et en gestes, avec des éclats de rire et de colère, des rues traversées par les Vespa et le cri des enfants, et des promesses de révolution.
Enzo, la luce.
qui nasce tu non muore quatre.
Fragment d'écho, les sous-sols de Naples. Les voix du temps résonnent dans les immenses entrepôts de la mémoire, dans cette autre ville, ville souterraine et cryptée, portant la trace des Grecs, des Romains, des premiers chrétiens et des camorristes. Napoli Soterranea, cave de San Gregorio d'Armenio, crypte de Santa Maria del Purgatorio, Capella San Severo. Une ville inversée, liée au temps et à la mort, où erre le Monaciello, petit fantôme farceur, mais aussi toutes les âmes du purgatoire. Fragments de musique et de scène, théâtralisation de la ville. Le Napolitain est un comédien éternel, paruse bien souvent pour ne pas laisser deviner sa dangereuse et ironique profondeur. Du Teatro San Carlo à la Sanità, des opéras de Donizetti à la chanson napolitaine. Le démon de Naples, sous des masques divers, traverse les quartiers les plus pauvres et les temples de la haute culture. De Gesualdo à Polichinelle, en passant par le prince de Curtis, dit Toto. Fragments d'écueils et de ressac, la mer enfin, celle d'Homère, celle des dieux et celle des poètes. Un golfe qui promet aux mortels le bonheur, au pied du Palazzo Donna Anna, Naples de l'amour, Naples de l'enfance. Naples des îles, Capri, Ischia, Procida, et Naples des illusions, où Parthénopée, la sirène, est venue mourir. Premier fragment. Ouverture napolitaine à une voix. Naples est donc, avons-nous dit, une ville plurielle, où chaque expérience individuelle sert à brouiller et à déjouer les mythologies qu'elle inspire. Des voix singulières, donc, plutôt qu'une voix pour dire un seul texte, raconter une seule histoire. Pour ouvrir ces émissions consacrées à la ville sans maître, voici la plus étrange et la plus étrangère des voix de Naples, celle de l'écrivain Eri De Luca. À l'entrée d'un de ses recueils de nouvelles, il écrit « Je suis d'un siècle et d'une mère mineure. Je suis né en leur milieu, à Naples, en 1950. De ce faux centre, apparence de tribune numérotée, je n'ai connu aucune profondeur de champ ni de détail. J'ai compris peu, mal, le temps et les actions. En hôte embarrassé, j'en ai retenu des signes. » Ce sont donc ces signes de Naples qui vont être la première approche, intime et unique, de la ville. Une mémoire, une voix et des textes. Eri De Luca, d'abord, j'aimerais faire un détour par un texte de Pasolini que j'aime beaucoup, qui est au début du petit traité pédagogique que Pasolini a écrit à Gennarellio, qui était d'ailleurs un adolescent napolitain. Il l'adressait donc à cet adolescent. Et tout au début, ça débute par quelque chose d'assez autobiographique, puisqu'il parle en fait d'un rideau blanc qu'il voyait quand il était tout petit enfant, en fait, depuis son lit d'enfant, à Bologne, où il est né. Et il voulait dire par là, en fait, que les objets qui sont autour de nous quand on est très petit comptent énormément pour la suite de notre vie et nous indiquent déjà beaucoup de choses sur notre condition sociale, sur le milieu dans lequel on grandit, sur les codes qui nous entourent, et que ces sensations, ce rideau qui en est le symbole, est quelque chose qui déjà est la marque de ce que va être notre destin, de la manière dont aussi on va peut-être pouvoir y échapper. Alors j'aimerais, dans votre cas, savoir quels sont les objets, les sensations, les lumières peut-être, les sons, les voix, qui ont été pour vous cette première connaissance du monde.
Je crois qu'il s'agit de la matière de laquelle est faite la ville. Donc il s'agit du touff, la couche vulcanique de laquelle sont extraits les pierres qui ont bâti les maisons de la ville. Depuis l'arrivée des Grecs, Donc, ce sont des caves souterraines qui ont creusé pour tirer ce matériel. Et donc nous avons vécu dans des maisons de pierre vraie. C'est pas de la des choses que modernes, mais c'est une pierre ancienne. Et donc le tout fait à garder les soupirs, les vies qui nous ont précédés. C'est une matière qui est poreuse, qui contient la première couche de la ville et aussi les vies qui se sont enfermées là-dedans. Donc cette pierre, on ne réussit jamais à recouvrir longtemps avec un enduit, qui se détachait toujours, qui se libérait de l'enduit et qui restait nude. Cette pierre est un ensemble des sens primitifs pour moi. Le sens de la vue, de son couleur, le sens de les avoir touchés et d'avoir l'odeur, exprès l'odeur du côté nord des palais, des murs, qui était plein de cette couche verte de l'humidité, et aussi une particularité sonore de l'acoustique que le tuf permet et qui pousse les gens à crier.
Un cono di detriti accumulati in una cavità del sottosuolo arse tra i vecchi quartieri per giorni. Ci sono città che poggiano sull'acqua, altre sul vuoto. Napoli sta su una mollica di tufo interrotta da spelonche, cave sotterranee, canali perduti. Il terremoto che si carica sotto di essa trova camere d'aria in cui rimbomba onde, canta, ringhia. Giovanni, nell'Apocalisse, l'ultimo dei libri, ha provato a scrivere quel suono.
Un cône de détritus entassé dans une cavité de sous-sol brûla dans les vieux quartiers pendant des jours. Il y a des villes qui reposent sur l'eau, d'autres sur les vides. Naples est sur une mie des tufs troués des grottes, de carrières souterraines, des canaux perdus. Le tremblement de terre qui se décharge au-dessus d'elle trouve des chambres d'air où il résonne par vagues, chante, gronde. Jean, dans l'Apocalypse, les derniers des livres, a tenté d'écrire ce son. Sous terre, j'ai senti brûler un cimetière. Ossements, souliers, chapelets, fleurs, lampes, croix. J'ai reniflé pour ajouter des odeurs au catalogue des combustibles. La fumée montait du puits fissuré, des bouches d'égout, des tuyaux et d'une crémation générale. J'ai voulu en imprégner mon nez. J'ai croyé et je crois encore que la ville exhalait à ces moments-là, si elle en avait une, son âme.
Credevo e credo ancora che la città in quel punto stesse esalando, se l'aveva, l'anima.
Et quant aux autres objets ou aux autres, et vous n'avez pas parlé vraiment de la lumière, en fait, la lumière sur le tuf peut-être, mais est-ce que votre regard, quand vous étiez enfant, pouvait se porter vers la mer?
Et Naples, c'est une ville qui passe pour être une ville ensoleillée, mais c'est ensoleillé tout simplement pour ceux qui ont le premier rang de maison sur la mer, donc, déjà dans la deuxième ligne, la ville devient sombre, parce qu'elle est très chargée, les maisons sont très proches l'une de l'autre. Et il y a des ruelles, et si on vit en bas, le soleil ou la lumière, c'est un passage qui est étroit sur la tête. On n'arrive pas bien à savoir quel genre de journée est en cours. S'il y a le soleil, s'il y a du nuage, c'est toujours sombre, la, l'arrière-plan de la ville. Donc je n'ai pas un souvenir de lumière à Naples. Mais nous passions, j'ai eu la chance de passer des mois entiers pendant l'été dans l'île en face, à Ischia. Ça, c'était un privilège que mon enfance a eu. Et donc là, c'était la lumière était était ouverte. Il n'y avait pas de barrières ou d'obstacles tout autour de l'île ou en haut pour la recevoir. Pour moi, la lumière, c'est une question d'accueil. On accueille la lumière. Et là, je me suis ouvert comme font les. Comme on peut arriver à des floraisons, non? Qui, là, sur l'île, pouvaient s'épanouir. Et ouvrir les bras à la lumière. À Naples, non. Naples, ce n'était pas une ville pour les enfants. C'était une ville étroite, avec la plus haute densité habitative d'Europe, quand je suis né, et aussi la plus haute mortalité infantile. Donc l'enfance, c'était un âge dangereux et de passage qu'il fallait surmonter le plus vite possible pour arriver à consister dans quelques formats adultes. Et alors les garçons, les enfants essayaient de devenir adultes à 5 ans, à 6 ans, en quittant sans passer par l'école, mais directement allant à travailler. Parce que ça, c'était pour eux possibilité de n'être pas en charge. De n'être pas. D'être des êtres vivants qui gagnaient leur droit à l'existence. C'était un droit, à ce moment-là, c'était un droit assez limité. C'était une chance et il fallait l'attraper avec le majeur de force possible. Donc c'était pas une ville d'enfance, c'était pas une ville à lumière, une ville aux espaces. Quand je me suis retrouvé, j'ai connu pour la première fois Marseille, je me suis dit voilà un endroit où il y a de l'espace pour les gens. Il y a la mer, les bateaux aussi, il y a les îles en face, mais il y a aussi l'espace pour les gens, pour bouger un peu, pour ne pas se casser les pieds l'un avec l'autre.
Et les sons aérés des Lucca et les voix de Naples, vous en souvenez de ça aussi? C'est quelque chose qui vous a marqué quand vous étiez enfant?
Bien sûrement, parce que j'écris en italien, mais ma première langue était le napolitain, c'était le dialecte. Et le dialecte, c'était la langue officielle de la ville. Qui essayait de parler italien était gardé comme quelqu'un qui se détachait, qui avait la présomption d'être quelqu'un d'autre. Donc c'était négatif, c'était mal vu, mal oui l'italien dans la ville. C'était l'italien de l'État, de la police, des taxes, non? Donc, c'était la langue de une langue officielle oppressive. On parlait le napolitain, donc le napolitain, c'était ma première langue. J'ai toujours écrit en italien parce que l'italien, c'était une langue qui était dans les livres. C'était une espèce de langue muette pour moi. Il n'y avait pas encore la télé qui nous apprenait la langue nationale, donc qui diffondait, faisait diffusion de cette langue qui est devenue, à travers la télévision, une vraie langue nationale. Mais d'abord, il y avait les dialectes. Et les dialectes étaient la langue parlée, criée, la langue des... de la nécessité, de l'allégrie, du mauvais humeur et de la chanson. Donc c'est une langue complète que j'aime, que je parle encore avec ma mère, par exemple, avec tous les gens qui peuvent comprendre cette langue. Et c'était cette langue qui m'a forcé à me rendre capable de musique, capable de l'entendre et de la répéter. J'étais comme au début j'étais pas doté pour la musique, j'étais complètement incapable de répéter, donc de chanter. Mais le napolitain et les chansons napolitaines et ma famille napolitaine m'a forcé m'a éduqué l'oreille, m'a forcé à être entonné, on dit comme ça, dans le ton de la... suivre le ton juste de la...
Oui, entonné.
Entonné de la musique. Donc le napolitain m'a donné un oreille, m'a ouvert l'oreille. Mais me l'a aussi écrasé, me l'a aussi octroyé avec ses cris, Peut-être j'avais une membrane acoustique un peu plus sensible et j'étais déchiré dans les nerfs par les cris de la ville. C'est pour ça que j'ai choisi l'italien, parce que l'italien c'est une langue qui est tranquille et presque muette. Et que je peux, dans laquelle je peux faire un peu de silence.
Eri De Luca, donc l'italien, pour vous, c'était un peu comme une résistance, une manière de garder une intimité dans une ville qui la refusait ?
Mais parce que c'était la langue la langue seconde, que mon père prétendait que nous parlions dans la maison, dans le périmètre, donc. De notre mur, l'italien c'était la langue, la seule langue officielle. Et mon père n'a jamais parlé napolitain. Je l'ai entendu parler napolitain quand il était en train de mourir. Il prétendait que nous savions, notre connaissance parfaite de l'italien et sans l'accent napolitain. Il prétendait ça de nous. Ça c'était exactement une autre langue, complètement une autre langue. Mais c'était une langue domestique, c'était une langue chuchotée, une langue entre nous, et la langue des livres, qui était dans sa bibliothèque et qui est devenue la mienne. J'ai hérité sa bibliothèque et sa langue.
Avevo sbagliato io. Che storia mi era venuta in mente che si chiamasse Katia? Non avevo sentito già molte volte chiamarla Kaya? Cosa cercavo? Di indovinare, di scoprire qualcosa che gli altri avevano trascurato? Credo di sì. Qui c'era il nervo di quella domanda, il nome. Partivo da lì, dall'accidente che accompagna a vita una persona più di un'ombra, perché almeno al buio l'ombra smette, il nome invece no.
C'était moi qui m'étais trompée. Quelle idée d'avoir cru qu'elle s'est prénommée Katia. Ne l'avais-je pas déjà entendu plusieurs fois appeler Kaya? Qu'est-ce que j'ai cherché? Deviner, découvrir quelque chose que les autres avaient négligé? Je crois que oui. Tel était le point crucial. Son nom. Je partais de là. De l'accident qui accompagne une personne toute sa vie, mieux qu'une ombre. Car du moins, dans le noir, l'ombre disparaît, mais pas le nom. Et il cherche à faire partie intégrante d'une personne, au point de prétendre l'expliquer, la présenter. Moi, je suis. Et puis vient le nom, comme si on pouvait être un nom, au lieu d'avoir un nom. Plus tard, je m'aperçus qu'elle ne disait pas « Je suis Kaya, mais je m'appelle Kaya ». Elle n'était pas Kaya. Ah non, elle était une personne qui s'est nommée ainsi. Peut-être voulait-elle tenir en respect ces petits bouts d'identité. Peut-être ne l'aimait-elle pas. Voilà, j'étais déjà en pleine investigation, en quête d'une de ses vérités. C'est ainsi qu'on tombe amoureux, en cherchant dans la personne aimée les points qu'elle n'a jamais révélés, qu'elle offre en don uniquement à celui qui interroge, qui écoute, avec amour. On tombe amoureux de près, mais pas trop. On tombe amoureux à partir d'un angle aigu, un peu à l'écart, dans une pièce, à côté de toute une tablée, assis dans un jardin où les autres dansent au rythme d'un petit air fade et décisif. Sorte de col de poisson pour un visage qui se fige, épinglé sur le diaphragme de la poitrine. Brusquement, j'ai tombé amoureux sans espoir de Kaya, d'une fille plus grande, à la dent cassée, dans un sourire de grêle, qui avait touché ma main sans égard pour ma blessure, et qui m'était devenue intime pour ça.
Da subito mi innamoravo a vuoto di Kaya, di una ragazza più grande, dal dente spezzato in un sorriso a grandine, che aveva toccato la mia mano senza riguardo per la ferita e mi era stata intima per quello.
Eri De Luca, est-ce que vous pensez que ces premières sensations qui dirigent notre enfance sont aussi une manière de destin, c'est-à-dire ce que nos choix après, nos fidélités, nos infidélités, les départs, les retours aussi, sont des choses qui découlent de ça, qui découlent de l'enfance.
Je peux dire que j'ai fait mon éducation sentimentale à Naples. Ce n'était pas une éducation sentimentale fondée sur l'amour. J'ai connu très tard et dans les îles en face, dans l'été, l'amour. Mais à Naples, ce n'était pas ça mon éducation sentimentale. Mais c'était la connaissance des sentiments de la compassion, les sentiments de la honte et le sentiment de la colère. Je crois que ces trois colonnes d'une éducation sentimentale, pour moi, se sont complètement révélées et je l'ai appris à Naples. Cette ville m'a accordé mes nerfs sur son octave, une octave plus tendue, supérieure, comme on dit, on peut dire musicalement, une octave supérieure face à celle qui était que j'ai connue, au son qui se produisait ailleurs. Alors mon éducation sentimentale a été complètement napolitaine. Et j'ai chargé là tous mes nerfs que puis j'ai déchargé loin de la ville quand je suis parti, très jeune. Mais toutes mes réactions physiques et émotives dépendent de cette éducation sentimentale que j'ai reçue et que j'ai connue là.
Eri De Luca, on reviendra sur la compassion peut-être un peu plus tard, mais sur la honte et la colère, je vous entends bien. Est-ce que c'est quelque chose justement qui a motivé après votre engagement politique?
Je crois que le sentiment politique pour excellence, ce qui permet d'être poussé vers une réponse politique, c'est la honte. Parce que la colère passe. La colère est un moment et on peut réagir ou rester calme, ça fait... C'est pas décisif dans un engagement politique, mais la honte, oui. Parce que la honte, c'est une espèce de et c'est une maladie de la peau. Il faut continuellement, on est forcé à se la gratter, non? Et c'est une force à répondre, à réagir d'une quelque manière. Et donc, si, mon engagement politique était toujours un engagement politique à fondement de sentimental. Je n'aurais jamais inventé un système politique de pensée. Mais je me suis engagé avec les gens qui ne pouvaient pas rester, rester tranquilles ou à bras croisés.
Vous parlez aussi dans un de vos livres de responsabilité vis-à-vis justement de la misère, de la honte aussi, de vivre dans des conditions difficiles à Naples. Quels sont les souvenirs à partir desquels vous pouvez faire remonter la généalogie, j'allais dire, de la force qui naît d'avoir honte pour ou contre quelque chose?
Moi, j'ai eu honte de moi, que j'avais la possibilité d'aller à l'école, par contre, tous mes petits copains, tous les gens qui habitaient autour de moi, allaient travailler à l'âge où je commençais à aller à l'école. J'avais honte de mes habits face à l'air. J'avais honte d'avoir des privilèges. D'avoir de la nourriture, c'était régulière. Et j'ai eu honte de ne pas pouvoir secourir tous ces copains, petits copains qui étaient régulièrement battus par leurs parents. Ils encaissaient des coups que meurtrières. Des coups formidables. Il avait une résistance à encaisser les coups qui auraient pu faire champion quelques boxeurs. Pour ça que pour leur capacité d'encaisser. Et puis, après, j'ai commencé à avoir honte de la présence des milliers de marins de la 6e flotte des États-Unis qui avaient choisi Naples comme leur base principale de la présence de l'OTAN dans la Méditerranée. Et donc là, la ville, j'ai commencé à détacher du fond de la foule, lentement à reconnaître cette figure blanche qui envahissait notre ville. Chaque libre sortie était millier, et la ville était bien contente de s'offrir dans toutes ces possibilités, donc au marché de ces jeunes gens qui venaient se purger de l'abstinence. Et donc, les rouelles les accueillaient cette milice chargée et pleine de bière, qui pissait partout. Mais ça ne changeait pas trop l'ambiance. Hein. C'était pas. On avait du nez très exercé, très en forme. Alors, maintenant, je crois qu'on a perdu un peu l'odorat, même à Naples. Mais là, lentement, j'ai commencé à avoir honte de cette présence militaire américaine, mais ça c'était une honte toute personnelle, parce que la ville n'avait absolument pas honte de ça, et elle était bien contente de pouvoir réaliser quelques gagne-pain avec ça. Donc c'était une chose personnelle qui m'isolait un peu. Et j'ai un quart de sang américain, parce que ma grand-mère était américaine, était arrivée à Naples de l'Alabama au début du siècle 1900. Et donc, elle avait donné un format américain à mon côté, au côté de mon père et de la famille de mon père. Et donc elle, jusqu'à moi. Et donc, je grandissais et j'étais toujours plus semblable à ces Américains. À ces gens qui étaient là, c'est débarqué chez nous. Et là, et ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas, mais parce que les Napolitains commençaient à s'adresser à moi d'un Américain en essayant de me... traitant comme un étranger. Donc c'est curieux de commencer à avoir cette expérience d'étrangeté et d'être étranger chez soi. Donc me déplacer de là ne m'a pas fait beaucoup de choses dans le sentiment d'être un étranger. Parce que j'étais déjà comme expulsé physiquement par mon format dans la ville de Naples. J'étais déjà étranger à 16 ans.
Per lustro, con gli occhi, i visi dei passanti. Tra essi vedo il tuo, mamma. Sei giovane, un'età tua che non ricordo più. Si dice che le mamme non abbiano età. Da bambino te le vedevo tutte. La vita era lunga un giorno. Moriva col sonno e risorgeva al risveglio.
Je scrute des yeux les visages des passants. Parmi eux, je vois les tiens, maman. Tu es jeune, d'un âge dont je ne me souviens plus. On dit que les mères n'ont pas d'âge. Enfant, je voyais en toi toutes tes années. La vie s'est déroulée en un jour, mourait avec le sommeil et renaissait au réveil. Pouvait-on imaginer le tourment de l'enfant qui ne veut pas dormir? Ce n'est pas moi qui tous les soirs mourais dans le noir, mais toi. Alors sur la pente au sommeil, je t'étais née par ton nom, serrée entre mes dents et mes mains fermées. Et j'ai renversé les yeux en arrière. Nous restions sous l'eau un instant, puis reparaissions ensemble dans le rêve. Ainsi, je t'ai sauvé tous les soirs. Et lorsque tu t'es senti soulagé de voir enfin l'enfant endormi, tu ne pouvais deviner l'appréhension qu'il avait à entrer dans les courants des songes. Peut-être formait-il au monde. Ton fils était certes bien peu doué pour se faire comprendre et peut-être peu disposé à le vouloir.
Una fioritura di reticenze preparava la sua identità.
Une floraison de réticence préparait son identité.
Eredi Mouka, qu'est-ce qu'être napolitain dans ce cas-là et qu'est-ce qui faisait que déjà, très jeune, vous n'étiez plus napolitain?
Et pour moi, napolitain, c'est mon origine. Mon origine de mes nerfs, de mes sentiments. Donc c'est une ville que je ne ressens pas comme une ville mère, mais comme une ville cause. Elle m'a causé mon éducation, ma réaction, ma constitution comme être humain. Je suis un effet de cette ville. Partout où je vais, je reste quelqu'un qui vient de là. Et le venir de là m'explique tout ce qu'il me faut pour me donner un significat, une justification, un significato. Donc je suis de cette ville, mais dans le sens de la provenance et pas dans le sens de la filiale. Je l'ai quitté, cette ville. Et quitter cette ville, à l'époque, c'était comme de la déserter. C'était une ville qui ne pardonnait pas aux absents, à ce qu'il a laissé. Elle était déjà vidée de jeunes gens à travers l'immigration, des familles pauvres à travers l'immigration. Et donc, les gens qui la quittaient et qui pouvaient rester, qui n'étaient pas forcés à la quitter, étaient des déserteurs. Et je sais que j'ai perdu mon droit de citoyenneté le moment où je suis parti. L'oblitération sur le billet a été aussi, sur le billet de train, était aussi l'oblitération de l'effacement du registre. Du registre de la ville. Je n'étais plus là. Il n'y avait plus ma place là. Et c'est comme ça, je peux aller à Naples, mais j'ai perdu le droit à employer le verbe « revenir ». Je vais à Naples, mais c'est pas le revenir.
Naples se confond pour beaucoup de Napolitains avec son problème personnel, semble-t-il. Est-ce que c'est le cas pour vous ?
Le problème personnel, lequel ?
Je ne sais pas. J'ai l'impression que pour chaque Napolitain, si quelque chose ne va pas dans sa vie, c'est la faute de la ville. C'est parce qu'il est né là.
Non, pas pour moi. Dans mon sentiment, non, je suis... obstinément fier maintenant de venir de là. Je revendique toujours. Et quand quelqu'un me dit qu'il y a des écrivains napolitains qui se fâchent quand on dit qu'ils sont des écrivains napolitains, parce qu'ils disent qu'ils croient qu'ils ressentent ça comme une limitation du titre. Non, un décalage de la... Mais pour moi, non. Pour moi, c'est exactement ma source, mon lieu de départ. Et donc, c'est le trou duquel j'ai arraché mon don. Donc, je revendique toujours, et je souligne toujours, j'aime toujours à souligner le fait que je suis napolitain, que je viens de là. Et mon écriture est toujours une écriture qui a pour la bonne moitié à sa place autour, qui fait l'écrivain comme moi a cette possibilité visionnaire de la retrouver intacte, de retrouver intacte ses lieux et les gens. En plus, je trafique toujours avec mes mémoires. J'invente très peu les histoires que j'écris. Je trafique très peu les histoires. Donc, je prends de ma mémoire. Ma mémoire est merveilleusement visionnaire. J'ai toujours pu réhabiter les lieux et les années. Et tant que j'écris, je suis là. Tout le temps que j'écris, je peux réhabiter un lieu. Donc, mon Naples, c'est un quartier de ma mémoire dans lequel je plonge continuellement. Je ne lui reproche rien. Je sais d'être réprochable par elle pour l'avoir quittée. Et je ne peux pas la réhabiter. Mais je ne peux pas plus habiter les villes. Je suis maintenant devenu un... quelqu'un qui doit rester sur la surface des terrains, sur les montagnes, sur la surface de la plaine ici. Quand je reviens dans la ville, j'ai toujours les yeux qui font de la ont du mal à mettre à fait les choses, les objets, les distances. Et toujours, au premier coup, je souffre de larmes aux yeux, parce qu'il y a quelque chose qui irrite les yeux, et à laquelle je ne suis plus habitué. Donc, ça. Mon arrivée dans n'importe quelle ville, c'est toujours passe à travers cette voile d'un peu de larmes qui lubrifie la pupille, comme on dit.
La paupière.
Hein.
Est-ce que ça veut dire aussi, Eri De Luca, parce que là vous habitez à plusieurs kilomètres de Rome, donc en effet dans la campagne, qu'en fait la mémoire est plus active, elle est plus présente, les souvenirs, les sensations sont plus, j'allais dire, tangibles malgré tout, sont plus présents, oui c'est ça, loin du lieu d'où ils proviennent.
Oui, on dit que quand un écrivain parle des histoires à lui, il faut qu'il prenne du large détachement. Pour moi, c'est le contraire. Dès que j'oublie toujours, j'oublie tout ce qui m'arrive, tout le passé, je l'oublie continuellement, je ne suis pas le patron de ma mémoire, je ne peux pas la consulter. Et alors, quand parfois la mémoire me donne des morceaux, des détails, alors je suis content de remettre autour de moi les personnes, le moment, les gens que je viens duquel je viens de me souvenir. Et donc c'est un moment où je me rapproche à l'histoire, à ces gens-là, au lieu. Je me rapproche. C'est pas un détachement. Le détachement est toujours en cours. J'oublie toujours. C'est toujours dans la distance de la mémoire qui a effacé tout. Mais quand arrive la grâce d'un souvenir, alors je me rapproche et je me précipite. Et je ne suis pas quelqu'un qui est le patron de l'histoire et qui peut la décrire comme en troisième personne. Je suis toujours quelqu'un qui est là-dedans et qui l'écrit de dedans, dans l'intérieur, pour être le plus antérieur possible de l'histoire. Et donc, sans aucun détachement, et souvent dans mes histoires, celui qui les raconte est celui qui ne les connaît pas bien. Peut-être est aussi celui qui les connaît moins que les autres. Ça arrive, par exemple, dans Monte di Dio, le petit garçon qui écrit son journal, et c'est celui qui comprend moins que les autres ce qui se passe.
Torno dai lavatoi, porto i panni nella cesta, nel buio delle scale qualcuno spia il passaggio. Li sento pure nell'oscuro gli occhi degli altri, perché quando guardano, toccano, fanno un poco di corrente d'aria che passa sotto una porta.
Je reviens de la voir. Je porte le linge dans un panier. Dans l'oscurité de l'escalier, quelqu'un guette mon passage. Je les sens même dans le noir les yeux des autres. Car lorsqu'ils regardent, ils touchent. Ils font un léger courant d'air qui passe sous une porte. J'ai dans l'idée que c'est Maria. L'immeuble est vieux. Les esprits passent le soir dans les escaliers. Sans leur corps, ils ont seulement la nostalgie des mains. Ils se jettent sur les gens avec l'envie de les toucher. Ils y mettent tant d'élan que leur effleurement me parvient. Maintenant que c'est l'été, ils me frôlent la gueule, ils essuient ma sueur. Les esprits se trouvent bien dans les vieux immeubles. Mais si quelqu'un dit qu'il les a vus, c'est un mensonge. Les esprits, on peut seulement les toucher quand ils veulent, eux.
Senza il corpo hanno nostalgia solo delle mani e si buttano addosso alle persone per desiderio di toccare. Con tutta la rincorsa che ci mettono, a me arriva uno sfioramento. Ora che è estate, si strusciano in faccia, mi asciugano il sudore. Nei palazzi vecchi gli spiriti si trovano bene. Quando qualcuno però dice che li ha visti, è bugia. Gli spiriti si possono solo toccare quando vogliono loro.
Ma è... Ma è...
Irée De Luca, justement, pour partir sur Monte Didio, ce livre, c'est le livre d'une enfance d'après-guerre à Naples. C'est aussi un livre très poétique en définitive. Est-ce que c'est le regard de l'enfance qui donne cette vertu poétique à l'expression? Cette vertu poétique que vous avez peut-être pu retrouver?
Mais je ne trouve pas poétique le regard de l'enfant. Je trouve poétique peut-être le regard, les premiers regards adultes, qui sont qui sont pleins d'erreurs, pleins d'imprécisions. Donc ici, il s'agit plutôt d'un besoin d'avoir un âge avancé face à ses camarades, parce qu'il a 13 ans, et là, donc il a un âge où il commence à travailler très tard face aux autres. Donc il y a ce qu'il y a un peu d'étrange, ou de poétique, ou de comique, c'est son empressement à être adulte.
Alors vous avez choisi le quartier quand même de Monte Didio. Pourquoi?
Ah, c'est mon quartier. C'est exactement le lieu où j'ai vécu jusqu'à 10 ans. Qui est resté aussi assez semblable, assez intact, sauf pour les gens. Il n'y a plus cette urgence et cette pression de vie dans les rues. C'est comme dépeuplé, Monte Didio. De Monte Didio et les ruelles autour. C'est étrange, j'ai un sentiment d'être de large, d'espace que je n'avais pas dans l'enfance. Quand on est enfant, on a plus espace qu'un adulte, parce qu'on est plus petit, on occupe moins d'espace, et donc on devrait avoir plus... un souvenir de plus de large de possibilités autour de soi, mais non. Non, c'est maintenant que Monte Didio est large. Mais il y a moins de bruit, moins de violence de vivre. Oui, Naples est devenue une ville moins violente, moins brutale. Et ce qui a, lui, enlevé un caractère de sa physionomie.
Irée De Luca, il y a un personnage qui est une figure assez étrange et très belle qui s'appelle Don Raffaello. Qui est un peu une figure de l'ange, oui, c'est ça, parce que c'est un peu une figure entre le réalisme et le fantastique. C'est un cordonnier, il a une bosse, il vient d'ailleurs, et la bosse contient des ailes. Comment avez-vous eu cette idée de ce personnage?
Mais là, il y a une... Dans la ville de Naples, dans mon enfance, il y avait toujours cohabitation avec l'irréel, l'imaginaire, l'esprit, les esprits, les fantômes, les rêves. Dans la ville, c'était normal avoir ce côté double, face, ressentir les absents, les morts, les fantômes autour de soi. Il y en avait besoin. On avait besoin de ce secours supplémentaire. Donc les histoires étaient toujours mêlées de ce côté qu'aujourd'hui on peut appeler irrationnel, mais là, au moment-là, c'était parfaitement rationnel, c'était à côté de c'était évident. C'était le côté obscur de la personne, le côté à l'ombre, mais c'était dans le... Il faisait partie intégrale du besoin de secours, de survie, d'avoir de l'aide à travers des souffles comme ça. Le garçon entend beaucoup de souffles sur son visage, et en plus les palais de tuf gardaient les âmes des morts. Et la, le côté bossu avec les ailes, c'est le, j'ai tout simplement implanté un appel de la, la littérature yiddish. Parce que la littérature yiddish était pleine de superstitions et d'intimité aussi avec les esprits, les fantômes, les... En yiddish, les fantômes on appelle les dibouk. Ça veut dire littéralement quelqu'un qui s'attache à vous, un attaché. Le, donc, c'est cette imagination fantastique, mais enracinée dans le matériel, dans la vie quotidienne, je l'ai trouvé en lisant en yiddish, avec la même intensité qu'un apple. Peut-être en yiddish aussi plus qu'un apple, plus intensément qu'un apple, surtout au sujet de la superstition. Et donc, j'ai implanté un peu de fantomatique yiddish et de la fantasmagorie hébraïque de la Bible à côté de celle napolitaine. Mais je trouve que ça que était très proche. Et je traduis, je suis capable de traduire de l'yiddish en napolitain plus facilement que de l'yiddish en italien. L'yiddish est plus musical, est plus court, est plus urgent, est plus sec et chaleureux aussi de l'italien, et plus proche du napolitain.
Sapete, don Raffanier, voi avete fatto il viaggio di Santa Patrizia. Pure lei voleva andare a Gerusalemme e una tempesta l'ha fatta sbarcare a Napoli. Gli racconto la storia della santa. È morta giovane a Napoli e ha lasciato un sangue miracoloso. Si squaglia e riquaglia in continuazione, assai più di quello di San Gennaro. Raffaniello si interessa. Volete sapere com'è uscito il sangue di Santa Patrizia? Una notte un devoto ha sforzato la sepoltura e con una pinza ha cavato un dente alla santa per tenerselo come reliquia. E quella, dopo 100 anni che era morta, si è messa a sputare sangue dalla gengiva. L'hanno raccolto nel vetro e così è cominciato il miracolo.
Vous savez, don Raffanier, vous avez fait le voyage de Santa Patrizia. Elle aussi voulait aller à Jérusalem. Une tempête l'a fait débarquer à Naples. Je lui raconte l'histoire de la sainte. Elle est morte jeune à Naples et a laissé du sang miraculeux. Il se liquifie et se coagule continuellement, bien plus que celui de San Gennaro. Raffanier lui est intéressé. Vous voulez savoir comment est sorti le sang de Santa Patrizia? Une nuit, un fidèle a forcé la sépulture et avec une pince, il a extrait une dent de la sainte pour la garder comme relique. Et celle-ci, 100 ans après sa mort, s'est mise à cracher du sang par la gencive. On l'a recueillie dans du verre et c'est ainsi que le miracle a commencé. Don Raffanier, ici il arrive des choses qui font passer celui qui les raconte pour un idiot. Et pourtant, elles arrivent vraiment. Cette ville est tout un secret. C'est une ville des sangs, dit-il. Comme Jérusalem.
Alors justement, Irène De Luca, une de vos grandes occupations, c'est tous les matins, si j'ai bien compris, de lire la Bible en hébreu et de la traduire. Alors ça, c'est une occupation, c'est une occupation très importante qui donne lieu à des commentaires aussi très beaux. Mais quel est le lien, en fait, que vous avez, que vous pouvez entretenir avec cette religiosité napolitaine, très matérielle, très liée aux morts, on l'a dit tout à l'heure, et à l'irrationnel? Et cette forme que prend la religion à Naples, les autels, le culte des âmes du purgatoire, est-ce que vous y êtes sensible à cette manifestation populaire de la religion?
Non. Non, j'étais physiquement repoussé par participation physique, par cette contamination physique. Naples était une ville aussi à côté de ce que vous avez nommé. C'est une ville qui a un culte pour les reliques sanguinaires. Il y a le sang, des têtes de verre avec des sangs qui se. Des sangs secs.
Qui se
liquéfie et puis revient sec, retourne sec. Il y a pas simplement Saint-Janvier, le plus célèbre de tous, qui fait cet aller-retour avec son liquide rouge, mais aussi beaucoup d'autres, d'autres saints les reliques desquels font cet exercice d'habileté, donc d'habileté surnaturelle. Et cette une intimité avec la mort, une intimité physique avec la mort que j'ai toujours eu de difficultés à supporter. De ça, je me suis éloigné tout de suite. Donc c'est pas un choix, c'est une réaction physique. Je me sens repoussé par ça, toujours.
Hérédé Glouka, il me semble que dans vos livres, il y a une faculté à se mettre à la place des autres qui est énorme. On parlait de la compassion tout à l'heure, vous parliez de la compassion que vous avez pu trouver à Naples. C'était une de vos expériences fondamentales là-bas qui vous a formé. Donc cette faculté à vous mettre à la place de l'autre, à vous mettre même à votre propre place en tant qu'enfant dans un de vos livres, et aussi même à vous mettre à la place du Christ dans un des commentaires que vous avez fait dans Le Noyau d'Olive. Christ en croix. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, cette compassion?
Oui, c'est une capacité que chacun de nous a, celle de se représenter les autres, s'identifier avec les autres, essayer de se mettre à côté d'eux. Plus que la compassion, c'est la possibilité de s'inventer une condivision. Et alors, parce que chacun de nous n'accepte pas de se réduire à une individualité, et a toujours le sentiment d'être un peu une foule lui-même. Et dans cette foule, il peut pêcher de temps en temps la personne, le personnage auquel il veut être proche ou à la place duquel il veut se mettre, pour essayer de l'écouter à l'intérieur. Donc essayer par exemple de se mettre dans le corps de Christ en tant qu'expert de menuiserie. C'était un menuisier, c'était un fils de menuisier, et donc il avait battu milliers de clous dans sa carrière avant de commencer sa mission. Et donc l'idée par Christ de se trouver du côté de l'arbre, quand il vient d'être cloué sur un arbre, de se trouver du côté du bois, et de mêler son sang à la résine, la résine d'un sapin. L'arbre sur lequel peut-être il a été cloué. Donc c'est... Pour moi, c'est comme ça. Je vais essayer de regarder les gens de l'intérieur. Mais de l'intérieur, pas spirituel, de l'intérieur physique. Essayer de trouver une représentation physique de leur expérience, de leur expérience, de leur souffrance aussi, mais comme pour... Un expériment de condivision dans un format mineur, naturellement. Un dixième, un soixantième, donc c'est pas pourtant la quantité, mais voir là-dedans.
Hérédé Glouka, ça c'est un travail d'homme ou un travail d'écrivain?
Ben, si c'est pas un travail. Comme écrivain, c'est un jeu. Un jeu pour restituer, reporter, ramener en arrière les mots de cette expérience. Comme personne, je suis toujours envahi par des autres. Ce n'est pas une volonté à moi, je suis toujours envahi par des présences, par des souvenirs qui prennent ma place. Et j'ai toujours plus souvent l'impression d'être en lien pour des rencontres des autres, de moi-même. Donc je me retire et je laisse jouer ces rencontres et je l'écoute. Comme écrivain, je ressens la responsabilité, au contraire, de restituer avec le maximum de précision que les mots permettent, de restituer ce passage de personne. Ça change de personne.
Staccarsi dal corpo è stata una rissa. Non voleva morire questa carne di trentenne, piena di salute e di amore. Loro tiravano da fuori la mia vita a forza di frustate e chiodi. Io spingevo a calci e niente, non voleva, non veniva via questa tua creazione piantata così forte.
Se détacher du corps a été toute une lutte. Elle ne voulait pas mourir cette chair de 30 ans, pleine de santé et d'amour. Eux, de l'extérieur, ils tiraient ma vie à force des coups de fouet et des clous. Moi, j'ai poussé à coups de pied et rien. Elle ne voulait pas, elle ne s'en allait pas, ta création plantée si fort.
Ho fatto in tempo, prima dei flagelli, a recitarti la benedizione di quando si assaggiano le primizie. Benedetto sei tu, Adonai, mio Elohim, re del mondo, che mi hai fatto vivere e durare e arrivare a questo tempo. Ero io la primizia, mi hanno gustato vivo.
Avant le flagellation, j'ai eu le temps de réciter la bénédiction des moments où l'on goûte les primeurs. Béni sois-tu, Adonai. Mon Elohim, roi du monde, qui m'a fait vivre et durer et arriver à ces temps-ci. C'était moi la primeur. Ils m'ont goûté vivant. J'ai obéi. J'ai renoncé à ma volonté de vieillir pour monter sur le bois romand du supplice, pour mourir sous les yeux des soldats étrangers qui se partageaient mes vêtements.
Ho obbedito. Ho rinunciato alla mia volontà di invecchiare per salire sopra il legno romano del supplizio, per morire sotto gli occhi di soldati stranieri che si spartivano i miei panni.
Ré de Luca, dans Le Contraire de Vin, vous commencez en fait le livre, qui est un recueil de nouvelles, sur l'image de la mer. Et l'image de la mer qui est déjà, disons, le ferment d'une espèce de résolution de la solitude. Est-ce que c'est quelque chose d'important, ça, pour vous, cette gestion de la solitude, la possibilité d'en sortir par quelqu'un, par moment?
J'ai une expérience de beaucoup de fréquentation, il y a dans ma solitude. Maintenant, je suis en... J'ai une solitude très rumoureuse.
Et c'est
très bruyante. Très bruyante, solitude très bruyante. Donc, je profite d'une solitude très bruyante. Mais ma solitude a été toujours envahie par visites mentales et par des visions. Je suis un peu visionnaire. Si j'étais pas capable d'écrire, peut-être j'aurais passé beaucoup de temps dans un quelque hôpital psychiatrique. Parce que l'écriture donne une possibilité de sortir de la merveille des visions, de lui donner un échappement, un passage à l'extérieur. Sinon, si les visions sont aussi formidables qu'on peut rester, là-dedans à outrance. Ce qui est passé, par exemple, à Walser, Robert Walser. Robert Walser, à un moment donné, il a décidé qu'il ne devait plus écrire parce qu'il devait écouter les voix. Il n'avait plus le temps pour écrire, sa priorité c'était écouter les voix. Et donc il restait cloué à écouter ses voix pour 20 ans de sa vie jusqu'à la fin. Donc le visionnaire a un esprit visionnaire comme le mien. On ne peut pas accuser, on ne peut pas nommer sa condition comme solitude.
Se sono rimasto cattolico è perché questa religione racconta un rapporto tra madre e figlio simile a quello che io ho provato con te durante tutta l'infanzia. Si svolge tra una Maria dolorosa e rivendicativa e un figlio che ha creduto silenziosamente di essere stato mandato e scordato dal padre dell'universo. Di queste desolazioni impronunciabili sono fatti altri mutismi di bambini. Tu raccontavi e io tacevo. Non mi chiedevi niente.
Si je suis restée catholique, c'est parce que cette religion parle d'un rapport entre mère et fils, semblable à celui que j'ai connu avec toi durant toute mon enfance. Il advient entre une Marie douloureuse et revendicatrice et un fils qui, en silence, croit être envoyé puis oublié par le Père de l'univers. De telles désolations indicibles naissent d'autres mutismes d'enfants. Toi, tu racontais, et moi, je me taisais. Tu ne me demandais rien. Une grande partie du destin de chacun dépend d'une question, d'une demande faite un jour par quelqu'un, personne chère ou inconnue. On réalise, soudain, qu'on attend depuis longtemps cette interrogation, peut-être banale, mais qui sonne comme une annonce et on sait qu'on tentera d'y répondre par toute sa vie.
Molto del destino di ciascuno dipende da una domanda, una richiesta che un giorno qualcuno, una persona cara o uno sconosciuto, rivolge. D'improvviso uno riconosce di aspettare da tempo quella interrogazione, forse anche banale, ma che in lui risuona come un annuncio. E sa che proverà a rispondere ad essa con tutta la vita.
E dice io stocca, ui 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 io stocca, ui 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 io stocca. E tocca a c'è la lingua e la. E dice io stocca, io stocca. Uega io stocca, ma perché non da faccia? Spaveranza la finestella, tritella nulla. E gusta rasella, e gusta rasella, e gusto occhio, e gusti broccoli. E l'ancora come sproccolo. E mi stai a strazia, astrazia, e lo cuore, ma sprocca la, ma stai astrazia, 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 ma perché non la faccio, ma non dire che c'è sta pulisciunella che fa sputazzella entro della mia.
Pour revenir un petit peu à Naples, à votre avis, quelle est la force et puis la faiblesse de la ville et des gens, des Napolitains?
Bon. Donc la ville de Naples, comme vous l'avez vu, en arrivant, en la voyant peut-être de l'eau avec l'avion, c'est une ville indéfendible. Non? C'est tout ouverte. L'armée qui l'a voulu l'a prise. Les batailles se passaient au dehors, loin, mais il arrivait déjà à Naples comme de vainqueur. Donc Naples, c'était une ville qui a été occupée et donc pour des longues périodes historiques par dizaines de peuples. Le fait que la ville était indéfendible a rendu le napolitain inexpugnable. Lui, il a gardé son inexpugnabilité. Il est resté le même. Il a eu une fidélité avec soi-même qui dépendait du fait qu'il était envahi et fréquenté par les autres. Et il a forcé les autres, les peuples, les rois, à être napolitains. Et donc, le vice-royaume espagnol était forcé à parler napolitain. Les Bourbons devaient parler napolitain. Murat aussi, Gioacchino Murat aussi, qui a été roi de Naples, a essayé de parler napolitain, mais il n'a pas eu trop de temps pour réussir. Et c'est pour ça qu'il n'a pas duré longtemps. Donc c'est une ville qui a rendu ses habitants inchangeables, inexpugnables. C'est une ville européenne, une capitale européenne. J'ai une méthode très sûre pour savoir s'il s'agit d'une capitale ou non. Parce que les capitales en Europe font le vide autour d'elles. Hein? Ne laisse subsister aucune ville à côté. C'est une ville qui a absorbé toutes les gens, les intelligences, les ressources du sud de l'Italie. Donc c'est une ville vorace, famélique, qui a fait sentir ses citoyens comme des rois. Des rois sans pain, non, des rois pauvres. Mais des rois. Et ça les a rendus d'un orgueil aussi démesuré qu'ils doivent le cacher sous la forme du comique. Ils doivent rire de ça, parce que sinon ils étaient perdus. L'arrogance, l'esprit espagnol avait beaucoup enivré l'orgueil napolitain.
Est-ce que vous ne croyez pas, Iri De Luca, qu'il y a peut-être quelque chose qui peut avoir, qui peut être une arme ou alors une espèce de maladie secrète pour les Napolitains? C'est tous les clichés auxquels aussi ils donnent accès, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire sur eux, etc. Toute cette représentation, tout ce paraître. Est-ce que c'est quelque chose qui grignote l'âme ou qui la protège?
Non, c'est la deuxième, la protège. C'est un voile qui sert pour l'extérieur, donc ça, c'est bon à tout. Hein. On peut vendre un morceau de ce coutume de polichinelle, et ça va très bien. Mais dans le napolitain, comme dans le visage d'Eduardo, il y a le passage de la du fureur à l'humilité, ou de la colère au riz, sans changer un muscle de la physionomie. Il y a cette cohabitation de la férocité et de l'hilarité. Ils sont toujours là. Ils sont toujours prêts à passer l'un sur l'autre. Napolitain a dans soi une vitesse de réaction nerveuse qu'il cache avec la, avec un temps de réflexion avant de répondre. Mais toute la, il n'y a jamais une réaction spontanée. Tout ce qui vous peut sembler un coup de cœur, une réaction, est toujours le fruit d'un calcul dans les centièmes de seconde qu'il a à sa disposition. Et il a à sa disposition des centièmes de seconde beaucoup plus que vous.
Gioia restar ma mia esce ca for. Gioia restar ma mia esce ca for. Ca mamma ta non c'è e c'ha malora. Ca mamma ta non c'è e c'ha malora. Vienta, vantatela, mondo montatela, stelle stellatela, acqua d'acquatela, fuoco, fugatela, troppa natura, troppa natriatela, piscia, pisciatela. Sì, craio tu trovo, vostra sta chiazza. Sì, craio tu trovo, fosse sta chiazza. Sol lacrima l'amore è una sputazza. Sol lacrima l'amore è una sputazza. Carmiona, Carmiona, Carignona, Carignona, Carignona!
Est-ce que le napolitain est immortel, Eric de Mouka?
Le napolitain se démontre immortel à l'étranger, quand il parle, quand il part. Il parle, il arrive ailleurs, donc. Le napolitain s'installe. À une force d'implantation qui démontre cette possibilité d'immortalité. Chez lui, il est limité. C'est une immortalité limitée. Limitée par les autres. Mais de toute façon, les langues, les peuples ont une forme d'immortalité qui les protège.
C'était Fragment napolitain avec Eri De Luca. Extrait de Une fois un jour aux éditions Verdier. En haut à gauche, chez Rivage. Montedidio et le noyau d'olive aux éditions Gallimard. Texte lu par Enzo Gatta et Monica Fantini. Prise de son, Patrice Klein. Mixage, Michel Kress. Une émission d'Anne-Sophie Vergne réalisée par Gaël Gillon.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 janvier 2004. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Prochaine émission de la série, Les Enfants du Volcan.